gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toi qui nous écoute et qui rejoint le direct sur Radio Canu. C'est bien La Causerie avec à la technique ce soir Clara.
Bonsoir.
Bonsoir Clara.
Bonsoir Fab.
Et Jean-Yves qui est là aussi.
Bonsoir. Bonsoir Clara. Bonsoir Fab.
C'est quoi ce truc?
Bonsoir amis auditeurs, auditrices.
Oui, d'ailleurs, bonsoir avant tout à vous
oui.
Hein, qui nous écoutez. C'est super sympa de votre part. Juste quand même vous dire que la petite laryngite de la semaine dernière a été soignée. Et donc du coup, on peut revenir. Parce que faire de la radio sans voix, ça marche pas bien, même si parfois on arrive à faire des opéras sans voix, mais ça c'est un autre problème. Et donc du coup on peut pas se faire remplacer nous, hein. Du coup tout ça pour dire c'est l'émission La Causerie et que on a une pensée quand même, là c'est moins rigolo, pour tous les habitantes et habitants de Mayotte qui aujourd'hui malheureusement vont compter les dégâts mais surtout leur mort, et on reviendra sûrement sur ce qui s'est passé à Mayotte, parce qu'il arrive un moment il faut arrêter de dire que c'est la fatalité. Il y a des choses qui relèvent en fait de choix politiques, et les mortes et mortes d'aujourd'hui sont souvent et même quasiment toutes du fait de choix politiques passés. Voilà, et donc du coup on va commencer avec Jean-Yves qui pour une fois amène une bonne nouvelle.
Ouais, mettez une petite croix dans votre agenda parce que c'est pas tous les jours. Puis quelque chose me dit que ça va pas durer. Et ben oui, effectivement, hein, ce soir j'avais envie de causer d'une bonne nouvelle. Et quand c'est le cas, il ne faut pas bouder son plaisir. Et savoir que le boucher de Damas est tombé procure beaucoup, beaucoup de plaisir quand même. Hein, en plus, il a fui comme ça, comme un lâche. Enfin bref.
Lui qui avait dit qu'il ne quitterait jamais palais présidentiel.
Oui. Donc des décennies de barbarie, d'autoritarisme, d'enlèvement, d'emprisonnement, de meurtre, de viol, de torture qui prennent fin, ne peuvent que faire plaisir. Et je me disais que j'ai du mal à imaginer ce que ça doit être pour les Syriens et Syriennes, que d'un coup un régime de cette atrocité tombe. Et on a du mal peut-être à avoir conscience de ce que ça doit faire.
50 ans de dictature qui s'effondre. Ouais.
Oui, c'est ça, parce que
il y avait le père et le fils.
J'ai regardé quelques émissions qui en parlaient avec des Syriens exilés, etc. Mais même eux, quelques jours après, en étant en exil, ils avaient du mal à réaliser, vraiment à concevoir que ils n'étaient plus là.
La famille Assad.
C'est ça, oui. Bachar el-Assad, mais toute la famille, on dira. Alors, et j'ai en tête aussi justement l'image de prisonniers, de prisonnières de la tristement célèbre prison Sednaya, surpris de l'ouverture de la prison, hein, pareil, on a vu des images, de revoir le ciel, de respirer l'air frais. Enfin, ça peut nous paraître complètement basique, et en fait, ça ne l'est pas pour toute l'humanité, et c'est un fait. Ou encore de ces familles qui retrouvent les leurs vivants, ou d'autres qui, eux, cherchent les leurs dans les listes de noms de prisonniers et de prisonnières pour savoir ce qui leur arrive, ce qui leur est arrivé, pardon. Parce qu'il faut quand même pas oublier que dans les geôles, il y avait des gens enfin, qui étaient enfermés depuis des dizaines d'années.
Mmh. Et on a retrouvé des enfants aussi.
Oui, aussi, évidemment.
Mmh. Bah, juste rappeler quand même que cette prison dont tu parles était surnommée l'abattoir humain.
Oui.
Parce que ben on y rentrait, on ressortait pas.
Oui.
Globalement. Hein.
Oui.
Et donc voilà. Et il y avait, je crois, si j'ai bien entendu, alors c'était quelqu'un d'exilé syrien qui donnait ce chiffre-là. Alors je sais pas si le chiffre est vrai ou pas, mais en tout cas, ça ne doit pas être très loin de la réalité. Qui disait qu'il y avait entre 30 et 50 exécutions chaque nuit de prisonniers dans cette prison, et entre 30 et 50 prisonniers qui rentraient chaque jour. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on avait un flux continu de personnes qui rentraient et qui mouraient. Donc c'est juste un camp d'extermination, hein, mmh. Ça porte un nom,
oui.
Qui était au cœur de la ville et où effectivement les gens sont... Enfin, il faut voir les images qui ont été filmées, mmh. Souvent par des Syriens eux-mêmes, hein, c'est-à-dire avec un téléphone portable, et de voir des gens qui ont peur parce qu'ils pensent que c'est l'armée syrienne qui arrive, qui après comprennent que c'est pas l'armée syrienne, mmh. Sortent à l'extérieur et regardent le ciel comme si... Ben, ils auraient jamais dû le revoir. Et c'est, voilà, c'est, ouais. Comme tu le dis, c'est très poignant et
oui.
Très étonnant.
Et donc, ce plaisir-là de savoir que des gens retrouvent la liberté, etc., il ne faut absolument pas le nier. C'est vraiment génial. OK? Alors, je reviens sur les prisons, mais pour saisir hein, l'horreur des geôles syriennes, je vous invite à ouvrir, à lire ou à regarder le livre Tous témoins, qui a été édité chez Actes Sud, dont la source de départ, en fait, sont les dessins, de Nadja Al-Boukaï, qui avait été emprisonné lui aussi par le régime syrien et dont je vous avais parlé dans la 386e causerie. C'était en avril 2021. Cet artiste a fait un autre livre, je pense que je vous en parlerai parce que je veux absolument le me procurer, qui est toujours pareil, issu de ses gravures, parce qu'il fait des gravures, de ce qu'il a vu en prison, de ce qu'il a vécu. Alors, encore une fois, hein, vive la chute de Bachar el-Assad et ne boudons réellement pas ce plaisir-là. Pour autant, oui, je vous avais dit que ça n'allait pas non plus durer entièrement. Hein. Pour autant, hein, sans nier encore une fois ni minimiser la formidable nouvelle que représente la chute d'Al-Assad, on sait bien qu'une révolution, bah, en fait, elle ne s'arrête pas à la chute d'un bourreau. Ça n'est jamais arrivé et ça n'a pas de raison que ça arrive là aujourd'hui, demain en Syrie quoi. Les jours, les semaines, hein, les mois qui suivent sont et seront très importants aussi, hein, parce que c'est justement y a toute l'arrière-cour qui va se mettre aussi en branle, les différents groupes de pression, etc. Donc voilà. Et je me disais que pour comprendre aujourd'hui, il est aussi utile de regarder le passé. Et encore une fois, hein, l'idée là, c'est pas de vous, enfin pas encore une fois, mais en tout cas là, l'idée, c'est pas de vous faire un historique des dizaines d'années sous les régimes des Assad. Hein, y avait le père et le fils ensuite, mais juste, il y a un point important quand même à retenir, c'est l'année 2011. En fait, dans la continuité de ce qu'on a pu appeler et de ce qu'on appelle les printemps arabes, en fait, en Syrie, après que des ados tenus pour responsable hein, de tags contre Bachar el-Assad sont libérés avec des marques de torture, des manifestations toujours plus massives contre la corruption pour la démocratie ont lieu. Alors les tags disaient juste, c'était après la chute de Ben Ali et après la chute de en Égypte, Moubarak. Oui, Moubarak. Oui, ouais, Moubarak. En fait, il y avait des... Le pouvoir, en tout cas, dit que c'était ces jeunes ados. Mais en tout cas, des tags avaient été mis sur les murs en disant ton tour arrivera, docteur. Parce qu'il faut savoir que Bachar el-Assad était
ophtalmologiste.
Était ophtalmo avant d'être bouché. Donc voilà. La réponse du pouvoir, hein, c'est la répression, qui est elle aussi toujours plus massive et meurtrière. Hein, et dans le même temps. Alors, massive meurtrière, bon, je vous en reparlerai après. Mais dans le même temps, en fait, Bachar el-Assad, lui, il instrumentalise aussi les islamistes emprisonnés. Parce qu'il les libère pour rejoindre la rébellion, ce qui va justifier une répression toujours plus féroce, se posant en rempart contre les terroristes, parce que ça faisait aussi un jeu avec ce que certains vont appeler l'Occident, mais en tout cas l'Europe, les États-Unis, etc., en disant « moi, je suis le rempart face à la horde d'islamistes, etc. etc. » alors que lui-même était bouché en fait. Hein. C'est toujours le choisir le moins pire. Là, dans le cas présent, je ne sais pas lequel est le moins pire en fait, et je suis même pas sûr qui a choisi. Enfin bref. Et ce qui lui apportera, hein, comme je disais, bah justement le soutien de ce que certains et certaines appellent les pays occidentaux. Alors la répression hein, d'Al-Assad, elle se fait pas seule, il a pas ce pouvoir-là. Elle se fait avec l'aide de l'armée iranienne et des milices chiites venues d'Irak, d'Iran, du Yémen et d'Afghanistan, et aussi avec l'aide des avions de guerre russes du cher Vladimir Poutine, et il fait bombarder des villes entières, hein, vraiment des villes entières, c'est-à-dire qu'il c'est pas, il cible pas, j'en sais rien, un local qui hébergerait soi-disant des je ne sais quoi. En fait, là, il rase des quartiers entiers, des villes quasi entièrement, quoi.
De toute façon, il était conseillé par, je me rappelle plus du nom du, oui, il y a un drôle de son dans les casques. Il était conseillé par un militaire russe dont j'ai perdu le nom, qui était à l'origine de la guerre en Tchétchénie. Et c'est celui qui avait dit à Poutine que le meilleur moyen de gagner la guerre, c'était de raser des villes. C'est pour ça que Grozny avait été complètement rasé. Et donc, il a employé la même méthodologie en Syrie. Ça fait des millions de déplacés en général qu'on fait ça. Et donc, en fait, oui, il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il bombardait à l'aveugle et il rasait. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un peu de mémoire, il y avait même, ça avait été documenté, il y avait des journalistes qui avaient documenté ça, qui disaient qu'on pouvait même faire un quadrillage. C'est-à-dire qu'en fait, les avions, ils faisaient des carrés, en fait. Hein, ils bombardaient les trucs par carrés et ils avançaient comme ça, ils revenaient, ils rebombardaient, ainsi de suite. Et ça, c'est une méthode qui est juste immonde hein, quand on y réfléchit, mais qui aujourd'hui est appliquée aussi en partie en Ukraine, qui aujourd'hui est aussi appliquée à d'autres endroits où la Russie intervient. Voilà, c'est une méthode que reconnaît l'armée russe comme étant la meilleure méthode pour gagner une guerre.
Ah bah oui, voilà. C'est sûr. Hein. Pardon,
non mais... Non mais voilà, c'est juste pour replacer...
Oui, tu fais bien.
Et dire que Bachar al-Assad, il a été aussi aidé par un tyran qui lui-même
a
une méthodologie qu'il ne faudrait pas prendre pour plus sympathique que
de toute façon, il y a une réalité, c'est que Assad a mis comment dire, sa sécurité dans les mains de l'Iran et de la Russie. Et la Russie. Ça, c'est un fait. Hein. Et si on se dit que l'horreur n'était pas suffisante, effectivement, elle n'était pas suffisante hein, parce qu'en banlieue de Damas, il faut savoir quand même que le dictateur Assad il a également utilisé des armes chimiques hein, contre les Syriens et les Syriennes. Ok, voilà. Donc après tout ça, la Syrie, pardon, ce soir j'ai du mal, finit morcelée hein, avec divers groupes qui se la partagent. Alors je simplifie un peu, on est d'accord, mais voilà, je pense qu'il y a quand même un peu. On va dire qu'il y a les principales forces en présence. Donc il y a l'armée hein, de Bachar el-Assad hein, qui contrôle une bonne moitié du pays. Il y a le sanguinaire État islamiste qui, ainsi que d'autres groupes religieux pardon, comme Hayat Tahrir al-Sham, donc les HTS ou HTC, qui peuvent être opposés aussi hein, les uns aux autres. Hein. Il ne faut pas croire que parce qu'ils peuvent avoir une idéologie qui peut être semblable, qu'ils vont forcément s'adorer, se faire des câlins. Non, ils peuvent aussi se mettre sur la gueule.
Il y a aussi des jeux de pouvoir. Hein,
mais bien sûr, évidemment.
Enfin, comme dans tous les groupes.
Évidemment. Au nord-ouest, il y a des forces armées qui, elles, sont soutenues par la Turquie d'Erdogan. Et au nord-est, il y a des forces kurdes syriennes. Alors on dit kurdes syriennes, mais il n'y a pas que des kurdes dans ces groupes-là, on va dire.
Sous commandement des kurdes syriennes.
Ouais, c'est ça, mais qui sont vraiment faits avec une diversité de la population syrienne, hein, ok. Qui elles, donc luttent contre toutes les forces en présence.
En tous les
ok. C'est pour se remettre un peu quand même dans le truc, quoi. Et il faut quand même aussi savoir. Alors, à la gauche, à l'extrême gauche et même chez les Anars, on parle beaucoup du Rojava, etc. C'est cette zone-là, ok, qui serait plutôt gérée de manière très démocratique, avec une place des femmes qui serait très différente, avec une démocratie qui serait plus directe, etc. Voilà, c'est pour situer un peu tout le monde et un peu comment sont réparties les forces dans ce pays complètement éclaté. Et tout cela explique en partie hein, la réussite de l'offensive hein, qui a mené donc à la chute de Bachar el-Assad et de sa fuite en Russie. En tout cas, il semblerait qu'il soit en Russie. J'ai même pas
ça a été confirmé.
Ça a été confirmé. Oui. Ok, j'avais pas la certitude.
Oui, ça a été confirmé. Oui.
Mais ok, d'accord. Donc voilà. Donc Bachar a fui. Donc voilà. Donc en partie seulement, hein, je disais, ça explique ces choses-là parce qu'il ne faudrait pas non plus oublier le Hezbollah et l'Iran qui sont un peu occupés en ce moment, un petit peu, ou décimés hein, par la guerre avec Israël, ou encore la Russie poutinienne qui a déclaré la guerre à l'Ukraine depuis 2 ans et qui mobilise énormément de moyens pour la guerre en Ukraine. Donc forcément, je pense qu'ils ne peuvent pas étaler leurs armes et leurs armées partout, parce que je pense que Poutine déjà a été largement dépassé par ce qui s'est passé en Ukraine. Lui qui pensait qu'en quelques jours, il allait dégager les pseudo-nazis qui sont en Ukraine, ça fait 2 ans qu'ils y sont. Alors, ouais, c'est une boucherie, on s'entend bien, c'est la guerre, il n'y a rien de beau. Mais voilà, je pense que ça a fortement contrarié, on va dire, les plans de Poutine et, on va dire, la main-d'œuvre, les corps militaires qui sont à son service.
En fait, les soldats qu'il a à sa disposition, tout simplement.
Mais oui.
Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, ben, en fait, dans la poussée anti-française qu'il y a eu en Afrique, qui est justifiée, hein, j'ai pas de problème avec le fait qu'on dise qu'il faut que la France-Afrique cesse et qu'on s'en aille. Le problème, c'est que ça s'est fait avec l'opportunisme d'un Poutine qui, lui, est venu placer son aide militaire sur plusieurs pays qui étaient d'anciennes colonies françaises ou qui avaient des liens militaires avec la France. Et en réalité, en fait, y a beaucoup d'observateurs qui disent aujourd'hui que Poutine, il a eu les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire qu'en fait, il pense pouvoir être partout, sauf que, en fait, il n'y arrive pas. Parce que des avions, il n'en a pas non plus 150 millions, hein, et des soldats, il n'en a pas non plus des milliards. Donc en fait, il arrive un moment où il est obligé de répartir un peu tactiquement les endroits où il intervient. Et il y a plusieurs observateurs, tu parlais de l'offensive, qui disent que certes, la Russie, elle a bombardé pour essayer de protéger l'armée de Bachar el-Assad, et Bachar el-Assad d'ailleurs au passage, sauf qu'elle a beaucoup moins bombardé que ce qu'elle ne faisait à une époque. Parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'avions disponibles. Et que donc du coup, il arrive un moment où, à force de vouloir être partout, on est nulle part, c'est un peu le principe et quelque part tant mieux, parce que ça permet la chute d'un dictateur mais d'un autre côté, ça peut être aussi inquiétant pour la réaction qu'aurait un Poutine, par exemple, suite à cette défaite, je mets des guillemets. Mais il semblerait qu'il ait déjà réglé le problème parce qu'il aurait déjà appelé les nouveaux dire je voudrais bien garder ma base.
Si j'ai bonne mémoire, c'est à Moscou que, je crois le lendemain ou 2 jours après la chute de Bachar el-Assad, c'était le nouveau drapeau syrien, en fait qui est un peu un drapeau ancestral, mais qui représente la révolution syrienne, qui a remplacé l'ancien drapeau. Parce qu'en fait, il faut savoir que la Russie, elle a une ou deux bases navales.
Une base navale en Syrie.
Ce qui fait que, forcément, elle a absolument pas envie de perdre cette présence-là. Et donc, on négocie avec les nouveaux dirigeants. Hein, c'est ce qu'on appelle la géopolitique. Et c'est là où, justement, on peut quand même se dire que les rebelles ont été plutôt très bon, en fait, dans l'analyse du terrain et des faibles moyens qu'il restait à Bachar el-Assad. Et je dis ça sans,
sans les glorifier.
Hein. Ça s'appelle juste de l'analyse très froide d'un terrain. Et ils ont été, sur ce plan-là, on va dire, bon. Et donc, pour lancer cette offensive et faire tomber le régime du boucher de Damas. Alors, s'il est encore une fois important de laisser exister la joie que représente la fin d'un tel régime, je voulais quand même partager avec vous la déclaration de Syriens et de Syriennes en exil qui s'étaient réunis, je crois, autour de Paris, sur Paris, pour écrire ou sortir ce texte-là. Et je trouve qu'il est, encore une fois, il est très intéressant et il n'y a pas que moi qui couple les joies et qui se dit que, ok, c'est très bien que Bachar soit tombé. Par contre, la suite, on verra. Donc, ce qu'ils et elles disent. Aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de voir les forces du régime contraintes de fuir Alep. Images de détenus libérés de prison, statues de la famille Assad renversées, portraits de Khamenei, Nasrallah et Soleimani déchiquetés, ce qui rappelle bien la présence et le fort appui de l'Iran, parce que tous les noms que je vous ai donnés là sont liés à l'Iran, et du Hezbollah, l'Iran a vraiment un poids et avait une vraie présence en Syrie en soutien à Al-Assad. Je continue donc. Mais soyons clairs, il n'y a aucune raison d'espérer pour l'avenir de la Syrie dans les zones libérées par ces groupes militaires, qu'ils soient djihadistes ou modérés entre guillemets. Une joie amère et ambiguë donc. Beaucoup reste incertain. Les conséquences humanitaires risquent d'être catastrophiques. Le régime et ses alliés ont multiplié les attaques sur les zones déjà contrôlées par les rebelles, ainsi que sur celles qu'ils viennent de reprendre. Les hôpitaux d'Alep sont déjà débordés par le manque de moyens et de personnel. On ne sait toujours pas quelle sera la position des forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes. La seule chose dont on puisse être sûr, c'est l'éternel retour des partisans de l'axe de la résistance qui, sous couvert d'opposition à Israël et à l'impérialisme occidental, blanchiront une fois de plus les bourreaux qui ont assassiné et déplacé nos familles et nos amis. Au milieu de tout cela, nous sommes largement dépossédés de notre révolution et de la possibilité d'autodétermination de notre pays. Entre les puissances étrangères qui jouent à leur jeu d'influence avec notre sang et les milices islamistes qui ne parlent que le langage des armes pour l'instant, la force brute et les calculs géopolitiques décideront de notre avenir. La situation n'est pas excellente, mais la chute du régime reste la condition préalable à tout changement dans le pays. Encore et toujours, le peuple veut la chute du régime. Voilà, qui vient un peu nuancer quand on serait trop joyeux. Mais en tout cas, non, c'est une réalité. En fait, la politique, c'est pas juste on-off. C'est la paix, la guerre, la paix, tout se résout comme ça en deux minutes. On le sait bien, il y a beaucoup de forces en présence. Il y a des intérêts géopolitiques internationaux et locaux aussi. Il faut arrêter de croire que tout n'est qu'en référence à l'Occident ou je ne sais quoi.
Il y a
une géopolitique locale aussi. En fait, ne pas voir ça et n'être que braqué sur l'Occident, les États-Unis, etc., c'est une chose. Mais ne pas voir le jeu, on va dire, local, c'est vraiment se foutre une poutre dans l'œil, parce que c'est ne pas vouloir voir les faits, quoi.
Bah aujourd'hui, si on regarde un petit peu les forces qui entourent un peu la Syrie, il y a des grandes questions qui se posent frontalement. La première, ça va être déjà la réaction de l'Iran.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce que l'Iran va rester là où il doit être, c'est-à-dire ne plus être en Syrie ou pas? C'est la réaction de la Turquie. Parce que la Turquie a quand même une volonté d'hégémonie,
oui,
sur le nord de la Syrie.
Oui, oui, de toute façon, on sait que la Turquie a déjà bombardé depuis la chute d'Al-Assad. La Turquie a bombardé le nord, qui est, on va dire, le nord-est, qui est pas mal tenu par les forces kurdes et autres. Donc on le sait très bien, oui,
ça va être aussi la réaction de l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite a un poids énorme dans la région, même s'ils font ça de façon extrêmement intelligente et donc plutôt cachée, mais qui est quand même globalement plutôt vrai. On sait qu'aujourd'hui le poids de Ben Salman est énorme, et voilà, il y a même des gens qui disent selon la façon dont Ben Salman se lève le matin, il y aura plus ou moins de morts dans les guerres de la région. C'est horrible, mais c'est des expressions qui sont dites par les populations sur place. Et puis Israël, c'est-à-dire qu'Israël mène une guerre aujourd'hui, une guerre déraisonnée très clairement, qui ne semble ne pas vouloir avoir de fin.
Oui, et puis là aussi, je rajoute, mais Israël a aussi bombardé ce qu'il reste, on va dire, de l'armée syrienne, et des locaux qui auraient...
Après, ils disent toujours que c'est des locaux qui auraient, mais en fait, on ne sait pas vraiment.
Voilà, c'est tout à fait ça.
Et c'est une guerre. Hein, donc par
mais
principe,
ce que disaient des spécialistes... Pardon, je te coupe beaucoup, mais ce que disaient des spécialistes du coin, c'est qu'il est quand même intéressant d'observer que donc Netanyahou avait tout à fait des possibilités, on va dire, d'écraser en tout cas l'armée du bourreau al-Assad,
mais
qu'il l'a jamais fait.
Parce qu'il avait une alliance de fait.
Mais oui.
En fait, il y avait de la géopolitique cynique dans
oui,
la région aussi.
Parce qu'une autre personne disait que la frontière israélo-syrienne était une des mieux tenues.
Bah oui, parce qu'en fait, mais comme d'ailleurs Israël a des accords avec l'Égypte qui sont des accords hallucinants.
Ah oui.
Aujourd'hui, Gaza ne serait pas enfermée si l'Égypte rouvrait sa frontière, sauf que l'Égypte ne la rouvre pas. Donc c'est bien qu'aussi il y a une sorte de jeu géopolitique extrêmement malsain. Qui se fait sur le dos des populations, sur des milliers de morts, voire des millions de morts, et ce, dans toute la région. Et effectivement, qu'après, les Américains, les Russes, tout le monde va vouloir venir essayer d'influer, ça c'est sûr, mais il faudrait, comme tu dis, il ne faut pas oublier que déjà, en local, il y a aussi des enjeux. Et il y a des spécialistes qu'on ne peut pas voir comme des militaires, parce qu'ils ne le sont pas militaires, mais ce sont les représentants, en fait, de l'OPEP, c'est-à-dire le pétrole, qui, en fait, depuis des années, disent qu'il y a une vraie solution en Syrie, c'est de récupérer les puits de pétrole qui sont aujourd'hui protégés par les Américains. Pour ceux qui essayent de voir un peu comment ça se passe, il y a quelques puits de pétrole protégés par les Américains, d'autres par les Russes, et en gros, les puits de pétrole, ils continuent à tourner. Vous inquiétez pas, c'est pour ça que vos voitures peuvent rouler. Oui, parce que tout le monde a du pétrole dégueulasse dans sa bagnole ou dans le plastique qu'on a tous, hein, moi y compris. Donc en fait, le truc, il est là, c'est que il va falloir aussi voir ce que le leader dont j'ai perdu le nom, qui est arrivé à la tête...
Je me suis même pas noté. Al-Jalani.
Oui, je crois que c'est ça. Qui est arrivé aujourd'hui et qui est vu comme étant celui qui vient d'être nommé sorte de ministre de transition pour va vouloir devenir. Parce que ça va beaucoup jouer sur des guerres d'ego aussi.
Oui.
C'est-à-dire que il a potentiellement, parce qu'on va se parler cash, à la causerie, on parle toujours cash, la Syrie, si elle est vraiment, elle peut devenir une Arabie Saoudite 2. Parce qu'elle en a les moyens, avec les sous-sols qu'elle a et tout. Donc en fait, en réalité, bah, peut-être qu'il aurait la folie des grandeurs, le monsieur, qui va se dire, tiens, j'ai envie. Mais maintenant, il y a d'autres. Il y a déjà une Arabie Saoudite. Elle n'aura peut-être pas forcément envie que la Syrie devienne l'Arabie Saoudite 2. Vous voyez ? Donc, c'est tout ça, en fait, qui va se jouer aujourd'hui. Et croire que tout va venir uniquement des Occidentaux, c'est une erreur fondamentale. Et surtout, c'est passer à côté du fait que le monde est multimodal aujourd'hui, les influences ne sont pas... C'est plus les deux blocs, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que du coup, bah, l'avenir de la Syrie aujourd'hui est encore plus incertain que si ça s'était arrivé à l'époque de l'URSS. Pour dire un peu le truc, voilà. Mais que ça n'empêche pas qu'il fallait que ça arrive. Et le vrai problème, et moi je le dis ici avec mes mots à moi, mais je ne suis pas un expert en géopolitique, hein. Moi je me demande ce qu'on va faire avec les Kurdes. C'est-à-dire qu'en fait, soit on protège les Kurdes, concrètement on les aide, et on peut avoir un espoir réellement qu'en Syrie, les forces démocratiques syriennes puissent exister et qu'on ne sombre pas dans une nouvelle forme de fascisme larvé religieux. Soit on va les laisser crever parce que on va dealer avec la Turquie, dealer avec Israël, dealer avec les uns et les autres pour dire allez, c'est pas grave, les Kurdes on peut les sacrifier sur l'équation. Et là en fait on ouvrirait la voie à en fait quelqu'un qui est quand même celui qui a pris le pouvoir, c'est l'extrême droite religieuse, qui est pas la même extrême droite religieuse que d'autres, mais c'est une extrême droite religieuse. J'attends pas grand chose de l'extrême droite, j'attends pas grand chose en France, j'attends pas grand chose en Syrie, hein. Donc, je veux dire, j'en attends malheureusement du négatif, mais je veux dire, c'est pas mes amis.
Oui, donc, non, c'est ça.
Voilà. Et donc, il arrive un moment, en fait, où ça va beaucoup jouer sur comment les relations internationales vont se nouer. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir effectivement la Russie qui a déjà dealé avec le nouveau gouvernement pour garder ce truc, les Américains qui commencent à dealer avec eux pour dire oui, bon, ok, on va vous rendre les puits de pétrole, mais quand même, on voudrait une part, ce serait bien que ce soit plutôt une société américaine qui s'installe. Donc en gros on fait de la réelle politique de merde. La France qui nous dit bah nous on a déjà lié des liens et puis bon bah on va renvoyer les Syriens chez eux parce que ça fera pas plaisir à Jordan Bardella. En fait on en est là en fait. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on est en train de sacrifier des gens en faisant comme si la chute de Bachar el-Assad était la solution à tout. Sauf que comme tu l'as souligné, c'est pas le cas. Et le vrai problème c'est qu'aujourd'hui on renvoie des réfugiés syriens en disant on n'a plus à vous garder, il n'y a plus le bourreau de Damas. Sauf qu'on sait pas ce que sont les nouveaux qui sont arrivés au pouvoir. Donc voilà, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui et je trouve que bah, malheureusement le campisme habituel de la gauche française, d'une grosse partie de la gauche française hein, qui est de dire choisis ton camp et puis voilà, et bah, il marche pas et il est complètement idiot. Et surtout l'urgence aujourd'hui c'est que si des gens ne veulent pas rentrer, ils n'ont pas à rentrer.
Oui.
C'est la première urgence, c'est là que nous on peut agir, c'est-à-dire de dire bah, en fait si des gens disent moi je suis pas prêt à rentrer en Syrie parce que je suis pas rassuré par ce qui se passe, parce qu'excusez-moi mais c'est pas rassurant encore totalement.
Bah, c'est pas au bout d'une semaine que tu peux te dire la situation est super sécure, quoi.
Eh ben oui, mais le problème, c'est que là, en Europe, on est en train de couper les droits à rester à des réfugiés syriens en disant, ça y est, c'est réglé chez vous, rentrez chez vous. C'est-à-dire qu'on applique la politique d'extrême droite de base, qui est de dire, oh bah, lui, il est moins pire que l'autre, donc c'est bon, tu peux y aller. C'est là, en fait, qu'on doit agir pour moi. C'est nous, c'est là qu'on a un vrai rôle, c'est de dire, en fait, bah, les Syriens qui sont ici, s'ils ont envie de rester, ils doivent pouvoir rester, point barre. Voilà. Oui. Et ceux qui auraient envie de venir, ils doivent pouvoir venir aussi.
C'est ce que j'allais ajouter.
Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont devoir fuir aussi. Donc voilà.
Oui. Nous ne nous leurrons pas parce que. Alors, faut que j'arrête. Mais oui, parce que dans les régions qui sont sous le contrôle déjà de Al-Jalali, ou je ne sais plus comment il s'appelle.
Des HTS, là.
Des HTS, ça ne se passe pas super.
Ah hein. Non, mais c'est une extrême droite religieuse.
Donc voilà, donc il ne faut pas non plus se leurrer.
Il a fait une déclaration qui est très parlante. Il dit on ne s'en prendra pas aux autres religions, mais elles restent inférieures à l'islam.
Oui, bon, bah, voilà.
Bah, sa déclaration, elle est claire.
Enfin, oui, c'est déjà hiérarchisé. Oui,
mais
oui,
c'est du califat. C'est-à-dire, c'est un califat au sens qu'il y avait dans l'Empire Ottoman, à une époque où, en fait,
tu
empêches pas les gens
pas.
Mais par contre, ils te payent un impôt. Oui. Ils te font, voilà. Et puis, si t'as envie de raser leur truc, t'as le droit. Parce que, après tout, c'est inférieur. Ça reste, l'extrême droite religieuse habituelle, quoi.
C'est ça.
Elle est pas surprenante, quoi.
C'est ça. Alors, évidemment, on ne peut que souhaiter que les Syriens et les Syriennes continuent le combat, qu'ils ne se fassent pas voler leurs aspirations démocratiques par des réactionnaires religieux qui ne s'assumeraient pas. puisque là aussi il y a une sorte de double discours un peu. Il a travaillé beaucoup son esthétique, ce nouveau représentant de la révolution.
Mais encore une fois, comme Ben Salman.
Oui.
Je veux dire, Ben Salman, qui est à la tête de l'Arabie Saoudite, il a travaillé son esthétique, il a travaillé son rapport aux autres pays, son rapport au tourisme, tout ça. Parce qu'en fait, ils ont compris que on pouvait être rigoriste avec sa population, et puis à côté de ça, comme les touristes, ils n'en ont rien à foutre, ils viennent quand même, on va on va prendre leur devise, c'est pas bien
c'est
grave.
Ça. Alors quand même, pour finir, et pour rappel, 13 ans après donc le début de la révolution et de ses espoirs déchus, 500 000 Syriens et Syriennes ont été tués. 2 millions d'autres ont été blessés et plus de 15 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur maison depuis donc 2011. Alors plus que jamais, soutien à celles et ceux qui ne souhaitent pas un nouveau tyran à la place du tyran déchu. Et j'ai envie de dire mort à tous les tyrans, quoi, en fait. Enfin bref, voilà. Bon, on continuera évidemment de suivre ce qui se passe là-bas aussi, parce qu'encore une fois, la chute d'un tyran est toujours formidable, mais qu'il ne faut pas fermer les yeux sur après. Voilà.
Je fais juste une parenthèse parce que je l'ai lu tout à l'heure. Il y a quelqu'un je crois que c'est Bompard, la LFI, qui a dit en France la révolution avait mieux fonctionné qu'ailleurs. Elle a donné Napoléon couillon. Arrête, tais-toi. Voilà. Non, mais c'est juste pour dire que je trouve, c'est le campisme. Oui. Le côté, nous, on sait faire.
Cet élitisme français. Très fair.
Non, mais c'est très ridicule, quoi.
Oui. Enfin bon, bref, on ferme la parenthèse. Ouais. Allez, on passe à la zik.
M'avait énervé.
شوفوا في غدوة رأى
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie comme depuis 22h. Enfin, depuis qu'il est 22h. Et on vient donc de s'écouter Maleficum, un titre du groupe Insen. C'est le deuxième extrait de mémoire de leur prochaine EP à paraître dans le printemps 2025. Et peut-être un jour dans la causerie, qui sait. Eh bien,
parce qu'on avait déjà reçu. Non, on n'avait pas reçu le chanteur.
Non, il n'était pas. Il était
dans
pas
un
venu,
groupe qu'on
mais...
avait reçu.
C'est ça.
C'est comme ça que ça marche.
C'est tout à fait.
Les gens, ils changent de groupe comme ça, comme on change de chemise. Ah là, tout perdu.
Ok. Oula.
C'est bizarre. Oui, il a crié. Dans
j'ai
coup
pas
dans
crié beaucoup. Pardon. Excusez-moi, ami auditeur auditrice. Vu que j'avais commencé par une bonne nouvelle ou presque une bonne nouvelle, Fab lui va vraiment nous donner des bonnes nouvelles dans les sciences.
Oui. C'est d'avoir. Non, mais c'est vrai en plus. Alors, on parle souvent de science hein, dans la causerie, mais souvent aussi pour parler un peu des mauvaises nouvelles. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler un peu des avancées intéressantes et qui pourraient donner demain des super trucs ou des très bonnes nouvelles. Voilà. Alors, on va commencer par l'ARN et le cancer. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais on avance. Alors, on aura entendu parler de la technologie ARNm hein, pour les vaccins contre la Covid-19. Mais j'avais ici déjà parlé de cette technologie et qu'elle pourrait sans doute aller vers d'autres traitements et pas que contre les virus. C'est aujourd'hui chose faite et on s'approche du premier ARNm médicament, alors ou autrement appelé vaccin curatif, hein, c'est le même nom, qui soigne en fait, hein, curatif qui soigne, contre le cancer. Oui, parce que je rappelle que les vaccins, ça ne soigne pas. Non, les vaccins, ça protège. Voilà. Ta-ta-da. C'est dur dans la tête. Hein. Et c'est pas une masse avancée, mais bien un pas de géant hein, vers des traitements innovants et efficaces qui a été fait. Alors pour cela, il faut que le corps combatte lui-même le cancer. C'est l'idée. Voyez. Alors l'idée est donc, comme le dit Céleste Labbé, qui est professeure de dermatologie et responsable du centre de traitement des cancers cutanés à l'hôpital Saint-Louis, d'arriver à faire reconnaître comme étranger quelque chose qui s'est développé à partir de nous-mêmes. Parce que je vous rappelle que le cancer, c'est un bout de nous-mêmes. C'est ce qui a manqué au départ, en fait, ce qu'on n'arrivait pas à faire. Alors c'est un sacré enjeu, et pourtant, c'est ce que son équipe elle a réussi à faire sur les mélanomes. Vous savez, les mélanomes, c'est des cancers qu'on prend sur la peau. Et généralement, globalement, à cause soit du soleil, soit de produits toxiques qui sont en contact avec la peau. Donc ils ont atteint la phase 3. Alors, la phase 3, hein, c'est le moment où un traitement a de grandes chances d'être mis à disposition des malades. C'est la phase la plus aboutie. Et les résultats sont assez étonnants. Bien entendu, hein, c'est pas seul, mais bien en combinant en fait, ce médicament ARNm avec la chirurgie et l'immunothérapie que ça a été testé. Oui, on n'a pas encore inventé le truc. C'est pas encore Star Trek, vous savez, ils rentraient dans le vaisseau, ils avaient touché de la ils étaient irradiés, ils faisaient une petite piqûre et hop, ça y est, ils allaient mieux. Ça, c'est Star Trek. Dans la vraie vie, il y a encore un petit peu des trucs à faire.
Oui.
Mais en tout cas, c'est un essai clinique. Donc avant, on ne faisait que la chirurgie et l'immunothérapie. Et là, ils se sont dit, et si on ajoutait en fait ce fameux traitement ARNm ? Eh bien, le taux de récidive des cancers, il semble proche de zéro, là où il s'est situé entre 30 et 50% selon les mélanomes.
Ah ouais.
Donc c'est énorme.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'en fait, on élimine quasiment la. Enfin, on pourrait dire que les gens, une fois soignés, sont en rémission, et voire quasiment soignés tout de suite. Et sans dire, il y a 30 à 50% de chances que ça revienne et qu'on soit obligé de refaire quelque chose. Autant dire que c'est donc un pas de géant, hein, voilà. Et de plus en plus de recherches portent sur d'autres types de cancers qui aujourd'hui ont un taux de guérison bas, pour voir si on arrive en combinant la technologie personnalisée ARNm, parce qu'en fait, en réalité, on personnalise. Avec l'ARNm, on prend un petit bout de vous, on dit tiens, et ça c'est un, voilà, on programme l'ARN pour dire le petit bout que t'as pris là, qui est un petit bout de cancer, ça faut le détruire, vous voyez. Les traitements connus, et ben en fait quand on arrive à combiner tout ça, on arrive à des soins de plus en plus personnalisés, mais surtout de plus en plus efficaces. Et oui.
Non, je voulais juste dire aux complotistes anti-vax qui pourraient nous écouter que l'ARN ne modifie pas ton ADN.
Ah non, j'ai déjà fait l'émission là-dessus. Hein.
Ouais, on sait, mais ils ont un peu des, tu vois, ils ont un peu des fixettes, voilà. Des lubies. Alors, faut continuer de leur dire.
Non, ça ne change pas ton ADN et tu ne vas pas te transformer en chauve-souris. Donc personnaliser, donc parce que comme je disais, les technologies ARN permettent de créer sur mesure un vaccin curatif adapté parfaitement aux patients. Les possibilités semblent du coup énormes et on ne peut qu'espérer que cela aide à battre une bonne fois pour toutes les cancers parce qu'ils sont assez optimistes. Tous les cancérologues en disant mais en fait c'est une sacrée piste.
Voilà. Mais je me demande c'est viable de se dire que on va personnaliser le traitement.
Alors c'est viable à deux conditions. La première, c'est que effectivement, on
est viable économiquement. Enfin, je sais pas comment dire.
Alors, économiquement, rien n'est viable par définition. Okay. Non mais, on va être clair. Après, les choix d'accès à la santé, on a déjà fait des émissions là-dessus. C'est des choix, et j'en reviendrai à la fin de ma chronique d'ailleurs là-dessus. Mais en fait, en réalité, si on regarde bien, rien n'est jamais viable parce que tout a un coût. Par contre, les deux conditions, ça va être un d'apprendre à miniaturiser les outils. Mais ça, on est sur la voie, on est de plus en plus fort à ça, parce que plus l'outil est petit, plus c'est facile de faire du personnalisable, voilà, c'est tout simplement ça. Et la deuxième chose, et là par contre c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, on va dire, c'est d'apprendre à stabiliser au mieux les fameux médicaments personnalisés. Et ça, c'est les deux choses qui aujourd'hui butent. Après, le prix ou autre, ça c'est toujours le même débat, voilà. Mais ça devrait pas être le prix qui empêche. Par contre, la technologie a aujourd'hui deux petits écueils, mais qui sont en train d'avancer très très vite. Et normalement, enfin d'ailleurs, dans les plusieurs articles que j'ai lus là-dessus, ils sont extrêmement sereins à se dire on va y arriver quoi.
C'est okay.
Pas, voilà. Cool. C'est pas, ils sont pas à se dire oula, ça va être compliqué. C'est plutôt chaque hôpital aura sûrement son bloc créé de l'ARNM assez facilement, parce que c'est pas très compliqué à faire contrairement. Ce qu'on croit. Et donc, en fait, voilà. C'est pas, ils sont pas inquiets là-dessus. Okay. En fait. C'est pas là-dessus que se porte le truc le plus compliqué.
Okay. Voilà.
Allez, je passe à totalement autre chose.
Allez.
Figurez-vous que ChatGPT, il arrive à gruger les enseignants. Ah oui, je l'ai dit, je passais complètement à autre chose. Hein.
Mais tu fais bien.
Une étude britannique démontre que les enseignants ne se rendent pas compte, dans 94% des cas, qu'ils lisent et corrigent un truc issu de ChatGPT version 4.
Wow.
Minimum, voilà. Et sachant que la dernière version, je crois que c'est la 8, hein, donc vous voyez, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comment ils ont fait le test, hein, c'est tout simple, hein, ils ont pris des élèves, puis ils ont pris des ChatGPT, ils ont mis les copies, puis en 94% des cas, ils se rendaient pas compte que c'était ChatGPT qui leur parlait. Alors, outre le fait que ce soit une excellente nouvelle, hein, pour les élèves qui vont pouvoir tricher sans se prendre trop la tête, cela démontre surtout que les IA génératives ont enfin atteint un niveau capable de gruger les experts d'un domaine. Oui, parce que les correcteurs humains et professeurs, c'est des experts en théorie. Donc, on est un petit peu coincé, vous voyez.
Ouais.
Bon, j'arrête, bien entendu, je plaisante, c'est pas là que c'est la bonne nouvelle. Hein, parce qu'on peut pas déconner quand même. Même si, franchement, on trichait, on s'en fout. En fait, la bonne nouvelle, elle arrive maintenant. En fait, une IA de correction a été testée. Et cette IA de correction, elle détecte à 99,9% des cas que le document qui lui est soumis est fait par une IA.
Ok. Ok. Bah ben oui, oui, en soi, c'est très important pour les profs.
mais c'est ouf. Mais c'est qu'on va pouvoir donner des outils pour pouvoir voir que c'est. Mais non, mais c'est con. Mais il faut
Non, mais oui.
Donc, on va pouvoir donc vérifier ce qui est fait par les humains et les robots. Bon, le truc, c'est que pour ça, il faut que ça devienne vraiment une bonne nouvelle. Il faudrait vraiment que les profs soient formés et équipés. Oui. Hein, parce que la technologie, elle est là. Elle n'est pas très complexe, mais encore faut-il équiper les profs.
Et y avoir accès, oui.
Alors, ce qui est plutôt rassurant, hein, c'est que les programmeurs aient eu le réflexe de créer de quoi détecter ce qui est généré par des IA. C'est ça ma bonne nouvelle.
Oui.
Parce qu'on disait toujours, ah là là, les IA, on pourra jamais savoir.
Oui, un jour, elles nous dépasseront, elles prendront
le contrôle. Sauf qu'en fait, non, ils ont démontré que un robot peut contrer un robot et qu'en fait, on peut détecter dans 99,9% des cas ce qui est fait par une IA. Vous voyez Et ça semble d'ailleurs fonctionner aussi, hein, pour détecter les faux articles et les fausses vidéos et les fausses photos.
Ça, c'est carrément
c'est cool.
Bien aussi, ouais.
Voilà, ils sont en train de tester, a priori ça marche.
Je suis un peu plus égoïste, parce que je suis pas prof, je m'en fous. Et je suis pas parent non plus, donc je m'en fous. Mais par contre, c'est hyper important parce que, enfin, je sais pas si parmi nos auditeurs, auditrices, il y a des gens qui de temps en temps voient passer des vidéos faites en IA, etc. Alors autant il y en a certaines, elles sont assez dégueulasses et on se rend bien compte que. Il y en a d'autres qui sont hyper bluffantes, quoi.
Tout à fait. Donc on peut que se réjouir, hein, de voir que ce secteur arrive à se neutraliser lui-même, c'est pas plus mal quand même, mais cela va aussi demander que nous nous formions pour comprendre comment ça marche et d'installer les outils nécessaires sur nos divers smartphones, PC et autres, parce que ça va être important de pouvoir repérer ce qui est fait ou pas par une intelligence artificielle.
Oui.
Voilà.
Après, des fois, il y a des signes. Hein. Je veux dire, quand on voit, par exemple, Poutine et Trump se rouler un patin, on sait que c'est une IA. Ok, mais il y a des fois où c'est vraiment beaucoup plus perturbant.
On sait.
C'est vrai que Vlad sur ses chevaux torse nu. Enfin bon bref. Dernière nouvelle.
Oui, alors moi j'avais une dernière bonne nouvelle. Figurez-vous que l'alphabet, c'est plus vieux qu'on ne le pensait. Eh bien, ça a l'air tout bête, mais c'est une très bonne nouvelle, vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est une excellente nouvelle dans la réécriture de l'histoire humaine, dans un sens plus universel qu'européano-centré. Eh ben ouais, l'utilisation d'un alphabet est plus ancien qu'on ne le pensait. Des archéologues ont découvert ce qui semble être la plus ancienne écriture alphabétique sur des cylindres d'argile datant de 2400 ans avant notre ère. Ils proviennent d'une tombe située dans le nord-ouest de la Syrie et ils sont issus d'une recherche sur une civilisation ancienne dont on avait un peu perdu la trace, si ce n'est qu'elle était citée dans des textes. Okay. Ouais, parce qu'il y avait déjà à l'époque, on avait des hiéroglyphes, des trucs comme ça. Je parle bien d'alphabet, hein. Attention, le hiéroglyphe, c'est pas un alphabet. Mmh. Hein, on est d'accord, c'est des idiomes. Ça, voilà.
Ah oui, oui.
L'alphabet, c'est des signes pour écrire. Voilà. Il faut se souvenir que l'écriture est une avancée majeure de l'humanité. Car elle arrête de je vais rigoler.
Pardon.
Car elle permet en fait de communiquer à distance. C'est ça le truc qui est bien avec l'alphabet, de laisser des instructions et de ne rien perdre du passé. Là, le but de l'alphabet, c'est ça au départ. Les tout premiers systèmes d'écriture connus sont par exemple les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture cunéiforme mésopotamienne. Ça, c'est deux écritures. Par contre, c'est pas aussi pratique que l'alphabet. Parce que c'est plus complexe.
Oui, oui, oui,
alors,
oui.
Pour faire simple, c'est dur de faire des petits hiéroglyphes.
Oui.
Vous voyez ? Non, mais c'est con, mais.
Oui, oui, non, c'est vrai. Il vaut mieux avoir une tablette d'un mètre sur deux.
Bah oui, c'est ça. C'est pas très pratique pour voilà. Ces deux systèmes, hein, comprennent des centaines de symboles représentant soit des mots, soit des syllabes, mais pas des sons individuels. Ce que fait l'alphabet. Mm-hmm. A, B, C, D, mm-hmm. C, des sons individuels. Voilà. Mais ils ne sont pas encore des alphabets en tant que tels, du coup. Donc ça s'approche, mais pas. L'écriture alphabétique, elle est apparue des milliers d'années plus tard, afin en fait de simplifier les systèmes précédents et d'améliorer leur accessibilité. Ouais, parce que franchement, apprendre les 100 000 hiéroglyphes ou les trucs comme ça, c'était un peu long quand même. Hein. Voilà. Dans un article de blog de l'université Johns Hopkins de l'université Johns Hopkins Glenn Schwartz, c'est dur, l'archéologue qui a découvert les cylindres d'argile, hein, c'est le monsieur dont je viens de citer, je vais pas redire son nom, il dit les lettres de l'alphabet ont rendu l'écriture plus accessible, mais pas les noms plus faciles à lire. L'écriture plus accessible à une partie de la population au-delà de la royauté et de l'élite sociale. Mm-hmm. C'est ça en fait qui était important avec l'alphabet. L'écriture alphabétique a changé la façon dont les gens vivaient, pensaient et communiquaient. Mm. Voilà. Alors donc je veux quand même dire, hein, c'est Glenn Schwartz et il est de l'université Johns Hopkins.
Yeah. Voilà.
Comme le dit l'article de Trust My Science, oui, parce que je l'ai piqué sur Transmission, l'hypothèse conventionnelle suggère que le premier est apparu vers 1900 avant notre ère chez d'anciennes communautés parlant une langue sémitique qui occupait la péninsule du Sinaï, située dans l'Égypte actuelle. Tiens donc, l'alphabet serait apparu auprès de ceux qui ont créé la première religion monolithique. Dis donc, ouais, les Juifs. Ouais, les Hébreux. Et là, c'est moi qui vais ajouter un petit truc quand même. Bah, comme par hasard, dis donc, l'apparition de la première religion monothéiste serait aussi en lien avec l'alphabet, le fameux don de Dieu. Parce que je vous rappelle que dans la Bible, c'est écrit que c'est un don de Dieu, l'alphabet. Sauf que, pas de bol, hein, on vient donc de découvrir que l'alphabet serait né au moins 500 ans plus tôt, et bien loin de la Terre Sainte.
C'est fou quand même, parce que Dieu arrive à se réapproprier. Quoi.
Voilà. La réappropriation culturelle de Dieu. Donc cette nouvelle découverte montre que les gens expérimentaient de nouvelles technologies de communication bien plus tôt et dans un lieu bien différent de ce que nous avions imaginé jusqu'à présent. Et explique toujours M. Schwartz. Et je vais signaler quand même, hein, que la découverte fait l'objet d'une polémique scientifique entre ceux qui prennent la voie de dire « c'est réellement un alphabet » et ceux qui disent « oui, mais c'est peut-être des symboles qui ressemblent, mais c'est pas un alphabet. Vous voyez, okay. Voilà. Bon, mais ça, c'est normal.
Oui, là, en fait, il faut affiner le truc, voilà, aussi en même
mais
temps.
C'est pas eux les plus gênants. Les plus gênants, c'est que la bonne nouvelle que j'avais aujourd'hui, c'est que ça met en ébullition aussi le monde religieux, qui met un sacré point pour garder cette espèce d'exclusivité entre Dieu et les lettres. Voilà. Comme c'est étrange, c'est pas comme si depuis des centaines d'années, on avait construit la grandeur de l'Occident et du système judéo-chrétien sur la croyance de la spécificité d'avoir, nous, un alphabet et pas les autres.
Ben oui.
Vous voyez ? Voilà. Et donc, cette spécificité, elle est sans doute fausse.
Oh, c'est fou ça.
Un salaud. Donc voilà, et donc du coup, parce que je trouve ça plutôt cool et marrant, parce que moi j'aime bien en fait quand... Par contre, la science, elle vient gratouiller un petit peu.
Oui, et puis ça vient complexifier, l'histoire de l'humanité, en fait. Enfin, ouais. Je trouve quelque chose d'intéressant.
Ce qui est très chouette, en plus, alors je vais rajouter un truc parce que j'ai lu un article entre-temps, et j'avais pas vu cet aspect-là, je le trouve plutôt intéressant. Ce qui est très très chouette, c'est qu'en fait, on va pouvoir voir s'il y avait plus d'échanges humains que ce qu'on pensait. Parce qu'en fait, pendant très longtemps aussi, en Occident, on a construit une espèce de roman sur le passé qui disait qu'en gros, le gros du commerce était apparu avec les empires. Empire grec, empire romain, empire perse. Sauf qu'en fait, ben, rien ne prouvait ça, si ce n'est le fait qu'aujourd'hui on s'est dit, c'est cool, sur trois empires, il y en a deux qui sont en Occident, on va dire que c'est eux les premiers, vous voyez. C'est un petit peu le côté pratique. Et en fait, ben, ces scientifiques et ces archéologues, ils disent, ce qui est cool, c'est qu'on va peut-être pouvoir découvrir que c'était bien avant, et qu'en fait, ces empires se sont peut-être construits du fait qu'il y avait du commerce. Et que donc, ça remet en perspective le pourquoi et le comment ces empires existaient. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est ce qu'on appelle l'inversion de l'histoire, mais dans le sens positif du terme, c'est l'idée que bah, en fait, peut-être qu'on a mis la conséquence comme cause et pas la cause comme conséquence.
Okay.
Ouais, c'est plutôt passionnant parce que ça va peut-être tout remettre à plat et c'est pas plus mal.
C'est ça en fait, c'est que ça ouvre des nouvelles portes et des nouvelles possibilités en fait.
Bah voilà, c'est ça exactement.
C'est cool.
Donc trois nouvelles dans trois domaines et trois choses passionnantes à creuser, hein, puisque je vous ai donné que des surfaces. Hein. Mais comme souvent, hein, les sciences ne sont pas assez mises en avant et n'oublions pas les aspects importants. En médecine, nous devons tout faire pour que l'ensemble de la population ait accès aux soins. C'est tout dont on parlait, et ce partout dans le monde, et ça c'est politique, c'est pas scientifique, hein. Donc je rappelle, je le redis souvent au micro de la causerie, hein. En fait la science, ça a aussi des aspects politiques mais minorés par rapport aux choix politiques qui sont faits après avec de ce que les sciences ont trouvé. Pour le reste, hein, plus on se forme, plus on s'informe et moins on subit les choses. Donc là aussi, hein, pour ne pas tomber dans la peur et le complotisme, connaître et comprendre, bah, c'est souvent la clé quand même, globalement. Bref, j'en reste là, hein, pour ce soir, en espérant vous avoir donné envie de creuser ces trois petits sujets et pourquoi pas aller en découvrir plein d'autres.
Mais carrément.
Mais oui.
Mais ce serait super.
Voilà.
Et ben, peut-être à une prochaine où tu nous ramèneras encore d'autres bonnes informations, des infos positives. Ce qui nous fait du bien aussi.
Ouais, mais ben, en fait, je vais être transparent. Pourquoi je l'ai fait ce soir? Parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps, comme c'est souvent moi qui parle de science quand même, globalement, je ramenais quand même beaucoup de choses anxiogènes ou négatives au sens où, en fait, ben, les sciences démontraient le pire. Ce qui est, bon, malheureusement le cas pour le dérèglement climatique ou autre, mais qu'en fait, bah, y a aussi des choses très positives et je me dis, c'est dommage, on les met pas souvent en avant, alors que bah, c'est bien des fois de se dire, bon voilà, il y a quand même des avancées sympas et puis bah, après, bah, encore une fois, hein, il va falloir faire des choix politiques pour que ces avancées bénéficient à tout le monde.
Ok, et eh bien très bien.
Allez.
On passe à la zik ?
Oui.
Allez.
Ça fait quelques années maintenant que je suis lentement entre la rage et l'apathie. Non, plutôt régulièrement pour te dire à quel point les plus grands sont en fait petits. À coups de lumière et de couleurs dans le téléviseur, on te vend Goliath en David. Si bien que je m'étonnerai pas de sentir de mes mains les parois de sa bouche à vide. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Assis tout en haut de la tour de Babel. Et je me souhaite d'y mettre le feu, quitte à finir dans les flammes, autant le faire avec eux. C'est pas une question de fin l'amour, pas la guerre. Ils ont vendu les deux, ils ont vendu les deux. Ni même de croire en un ciel moins amer. Ils ont vendu les dieux, ils ont vendu les dieux. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Et rien ne va depuis que les hommes ont mangé. Appétit, si je reste promis, vous vous noirez aussi. Si je me noie, vous vous noirez aussi. Si je me noie, vous vous noirez aussi. Moi dans les flots, vous dans votre appétit. Si je reste promis, vous vous noirez aussi. Et rien ne va depuis que les ogres ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Je voulais même pas.
sur Radio Canu, tu viens d'entendre Solane. Solane avec les ogres, voilà, qui ont mangé le monde. Oui, messieurs qui avaient du fric, c'est à vous qu'elle parle. Voilà, et pas que d'ailleurs. Messieurs même d'ailleurs, un peu tout court. D'ailleurs, ça tombe bien parce que ça me permet de faire la suite avec la brève.
Oui,
que vous l'annoncez ce soir.
Un petit rendez-vous.
Un petit rendez-vous, il y a un atelier d'éducation populaire sur les masculinités qui se tient en fait le 18 décembre de 19h à 22h à l'atelier des Canulars. Donc à l'atelier des Canulars, c'est 91, je me suis perdu. 80 rue Montesquieu dans Lyon 7e, ou des fois je me perds dans Lyon 7. Voilà. Et alors pourquoi c'est bien ces ateliers? Parce que bon, d'abord, il n'y a pas que sur la masculinité, mais pourquoi celui sur la masculinité peut être bien? Déjà parce que messieurs, c'est bien de s'informer de ce que c'est que la masculinité, les masculinités, ce que peut être une masculinité toxique par exemple. Voilà tout ça. Et l'éducation populaire, c'est vachement bien parce que c'est des endroits en fait où on est, où aucune question n'est bête, où il faut quand même apprendre à écouter les réponses, où on apprend à se parler sans se hurler dessus, où l'idée n'est pas forcément de convaincre les autres, mais bien d'avancer, d'avancer par le contradictoire et de faire avancer sa propre pensée, que l'éducation populaire s'est fortement rattachée à un mouvement terrible qui s'appelle l'anarchisme, et qui apprend aux individus à être maître d'eux-mêmes, mais surtout à ne pas vouloir être maître des autres. Ouais, donc c'est tout bête, mais voilà, donc c'est ça nous paraissait hyper intéressant de vous donner cette information. Alors c'est à prix libre, hein, pour être très clair. Donc vous donnez ce que vous voulez, par principe c'est la notion du prix libre. Et il faut s'inscrire si c'est possible, c'est mieux, vous n'êtes pas obligé mais c'est mieux. Et pour vous inscrire, c'est au mail oteatro, alors oteatro @pm.me. voilà. Vous vous inscrivez et donc c'est à l'atelier des Canulars. Faites-vous, j'ai envie de vous dire, plaisir au cerveau en allant vous confronter avec les questionnements du moment, des choses. Voilà. Sachant qu'ils ont aussi fait, tu le soulignais, Jean-Yves ?
Non, ils vont faire janvier. C'est quoi l'anarchie ?
Voilà. Ça peut être pas mal.
Très bien. Ouais.
J'invite tous mes amis gauchistes ou tous mes amis trotskistes, vous savez, à aller discuter c'est quoi l'anarchie, parce que ça arrêterait de dire des conneries, comme ça serait bien. Ah là,
eux sont déjà idéologiques.
Ouais, mais par contre, pour vous les autres qui ont envie de savoir, c'est hyper important et c'est vachement bien. Vous verrez qu'on n'est pas des fous.
Eh bien, très bien. Eh bien, on se quitte, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais avant ça, on fait des petits rappels.
Oui, moi qui avais fait l'ouverture. Alors, donc, pour nous joindre, c'est lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Vas-y, donne le blog.
Le blog, c'est à blogs.radiocanu.org/lacausericanu. Et sinon, vous tapez dans votre petit moteur de recherche blog La Causerie et vous devriez tomber sur nous.
Et Clara, on nous trouve dans les podcasts ou pas ?
Je sais pas.
Elle a même coupé son micro, c'est dire quoi.
Mais oui, on nous trouve dans tous les podcasts. Il suffit de taper La Causerie Canu et vous nous trouvez. D'ailleurs, si vous avez un agrégateur de podcasts qui ne nous référence pas, faites-le nous savoir en nous écrivant à La Causerie Canu ou en laissant un message sur le blog, parce que comme ça, nous permettra de demander le référencement.
Yep. Très bien.
Voilà.
Et ben voilà.
Et on est aussi sur Facebook, mais ça,
c'est surtout un réseau de vieux, c'est notre place.
Mais merci à toutes celles et tous ceux qui nous partagent par ailleurs.
Carrément. Nous, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine, évidemment, à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu. Ça va être l'avant-dernière, en fait, de l'année. Oui, c'est ça. On est quoi là? On est le 15, le 22, 29. Ouais, 22, 29. On devrait être là jusqu'au bout de l'année.
Sauf s'il y a des laryngites.
Oui. Sauf s'il y a des choses comme ça, effectivement. On n'est pas maître de tout. On va se quitter en musique avec un titre de Parastu Amaldi, qui est une chanteuse iranienne. Le titre, c'est. Alors, vous m'excuserez, mais c'est Ask. Kon e Javanan, je pense. Ce titre-là en particulier, en tout cas ce groupe-là en particulier, parce que c'est une chanteuse et des musiciens, parce qu'il faut savoir que Parastu Amaldi, Soheil Fakit Nasari et Ezan Beragdar, qui sont donc chanteuses, guitaristes et pianistes, ont donné un concert en Iran. La chanteuse était non voilée et ils ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche parce que, vous savez bien, Dieu n'aime pas que On ne sait pas ce qu'il aime ou pas, mais en tout cas, les hommes qu'il représente n'aiment pas qu'une femme en Iran soit découverte. Et ils auraient été relâchés ce matin. Mais encore une fois, ne crions pas victoire parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Il y a une première arrestation et il y a des chances qu'il y en ait une suivante et encore une suivante.
Et ne pas oublier aussi que lors de ces arrestations sont régulièrement pratiquées des tortures,
évidemment,
ou des viols. Voilà. Parce que ne pas croire que parce qu'on a fait que. C'est pas une garde à vue, quoi.
Non.
Ouais, c'est... Je vais juste préciser ça, rappeler ça.
Non, voilà. Effectivement. Pays
même s'il se passe des trucs dans les gardes à vue déjà pas terribles, alors.
Oui, oui.
Imagine sous ce régime.
Donc voilà, donc on se quitte en titre, en musique, et on vous donne rendez-vous dimanche prochain sur l'antenne de Radio Canu. Portez-vous bien, faites attention à vous, et à bientôt. Et bisous.
Des bisous, salut.
Ciao.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دمیده، از ماتم سر See.